propose de le méditer pendant quelques instants. Il s'agit de Nicodème dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Et je vous invite à lire à partir du verset 1. Jean, chapitre 3, à partir du verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Il était chef des Juifs. Il vint auprès de Jésus pendant la nuit et il lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus lui répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors Nicodème lui dit : mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus lui répondit : en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, ne t'étonne pas, Nicodème, que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais pas où il va, et tu ne sais pas d'où il vient. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alors Nicodème lui dit : comment cela peut-il se faire ? Jésus lui répondit : tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Que le Seigneur bénisse pour nous la lecture de sa parole. Nicodème était un homme religieux. Mais Nicodème n'était pas sauvé. Dans les quatre évangiles, il n'est rien dit de mal à son sujet. Les théologiens, les biblistes et certains pasteurs accusent Nicodème de lâcheté parce qu'il serait venu voir Jésus de nuit. Mais c'est peut-être le seul temps où il pouvait avoir un entretien seul à seul avec Jésus. Nous savons que du matin au soir, Jésus était parmi la foule. Et cet homme ultra religieux n'avait donc pas l'occasion de le rencontrer en privé. D'autres font remarquer que Nicodème était un disciple du Seigneur, mais en secret. Mais son attitude était peut-être motivée par le désir d'utiliser son influence dans le Sanhédrin en faveur de Jésus. À part ces quelques explications douteuses, tout semble indiquer que Nicodème était un homme pratiquant, modèle. Voilà un homme qui respectait la loi, qui avait une morale irréprochable. Il était éduqué. Il était religieux. Mais il n'était pas sauvé. Parce qu'il lui manquait une chose, dit Jésus. Il lui manquait la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le résultat d'une rencontre personnelle avec le Sauveur, avec Jésus-Christ. Il était pharisien, c'est-à-dire qu'il faisait partie de l'organisation religieuse la plus respectée de son époque. Il était également membre du Sanhédrin, le corps gouvernemental juif en matière de religion. Le nom Nicodème est formé de deux mots grecs. Nico, qui signifie triomphe, et démos, qui signifie peuple. D'où vient le mot d'ailleurs, démocratie. Cet homme était un triomphe dans le domaine de la vie publique. Tout le monde le respectait pour sa bonté, tout le monde le respectait pour sa piété. Tout le monde reconnaissait en lui un chef parmi les chefs. Il était honoré, il était acclamé. Et Jésus lui-même admet sa position élevée lorsqu'il lui dit « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Pharisien, homme respecté, chef parmi le peuple, docteur d'Israël, homme religieux, et malgré tout cela, Nicodème ne savait pas ce qu'était la nouvelle naissance. Il avait une religion, mais sa religion ne le satisfaisait pas. Il était sincère. Et il avait fait tout son possible pour trouver la consolation, le contentement. Il avait fait tout son possible pour avoir une assurance et une paix. Et il ne pouvait que continuer à faire des œuvres et à espérer, avec un cœur vide et une terrible peur de l'avenir. Nous avons ici un homme que la simple religion ne satisfaisait pas. Nicodème se rendait bien compte que les choses extérieures n'étaient pas suffisantes. Nicodème savait très bien que toute sa bonté, même si elle impressionnait son entourage, ne l'habilitait pas à se présenter devant Dieu. Comment pouvons-nous définir ce matin la religion ? Beaucoup de non-contemporains ont une religion. Ils sont catholiques, orthodoxes, protestants, que sais-je encore ? Mais ce texte nous montre ce matin que nous pouvons être catholiques, orthodoxes, protestants, mais pas sauvés. Alors je vous propose de définir la religion comme étant un système de règles, de conduite et de lois basées sur la reconnaissance et la vénération d'une puissance surhumaine, d'une autorité suprême et le fait de croire en cette puissance. Je discutais cette semaine avec un couple. À ma question, croyez-vous en Dieu ? Je me suis entendu répondre, Dieu, c'est un grand mot. Je crois qu'il existe une puissance. Vous l'appelez Dieu,
Je ne sais pas. Tout le monde croit aujourd'hui en une puissance. Il n'y a que l'insensé qui dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Et comme j'ai affaire ce matin à des gens sensés, j'aimerais vous rappeler quelques principes. Tous ceux qui croient à une puissance supérieure, tous ceux et toutes celles qui croient en une puissance suprême, qu'elle soit personnelle, impersonnelle, sont religieux. Et cette puissance surhumaine, ce peut être le soleil, la lune, une vache sacrée, un serpent, ça peut être une rivière, ça peut être un arbre, ça peut être un homme, ça peut être une statue, qu'elle soit de bois, de pierre ou de métal. Mais le génie, et je n'ai pas peur de l'appeler comme cela, le génie du christianisme diffère de toute autre religion à cause d'un certain nombre de caractéristiques. D'abord, le Christ enseigne que nous pouvons connaître Dieu sur la base d'un lien entre Dieu et l'homme. Et ce lien, c'est une personne, Jésus-Christ. Puisqu'il est Dieu et homme, il constitue le seul lien possible entre Dieu et les hommes. Jésus a dit un jour, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Alors, où cette vérité est vraie, où elle est fausse. Jésus a dit, « Celui qui m'a vu, a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. » C'est la raison pour laquelle le christianisme n'est pas un système. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une personne, le Christ lui-même. Jésus-Christ désire que chaque personne partage cette union avec Dieu le Père. Contrairement à toutes les autres religions, le christianisme est la seule à offrir cette occasion. Non seulement le Christ nous révèle le vrai Dieu, mais il nous permet de devenir un avec lui. À une question de Nicodème, le Seigneur a donné cette réponse. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Naître de nouveau signifie littéralement naître d'en haut. Le mot grec employé ici est « anosen », qui signifie littéralement « en haut », c'est-à-dire « naître de Dieu ». L'évangéliste Jean nous dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu ». Ce n'est pas physiquement que l'on naît de Dieu. Il s'agit d'une naissance surnaturelle. La première naissance était naturelle, la seconde est spirituelle. La nouvelle naissance nous donne une vie nouvelle, puisque nous devenons participants à la nature divine de Dieu. Par notre première naissance, nous sommes tous et toutes nés pécheurs, pécheresses. Par notre deuxième naissance, nous naissons saints. Et les deux sont pour toujours bien distincts et séparés. La vieille nature, c'est une nature de mort. Et cette nature mourra un jour. La nouvelle nature a la vie éternelle parce que c'est la vie de Dieu, communiquée par le Saint-Esprit. De prime abord, Nicodème a eu de grandes difficultés à croire la déclaration du Seigneur touchant à la nouvelle naissance, puisqu'il dit à Jésus, « Comment un homme, quand il est vieux, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et renaître ?» Et Jésus s'empresse de lui expliquer ce qu'est la nouvelle naissance. En vérité, ce qui est une manière de dire ce que je vais te dire, c'est la vérité. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et l'on peut déjà remarquer ici ce que l'on appelle une progression dans la révélation. D'abord, il faut qu'une personne puisse naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Le salut vient du Seigneur et seul le Saint-Esprit peut ouvrir les yeux du pécheur qui est aveugle et nous montrer notre besoin de Dieu. Tant que le Saint-Esprit n'a pas révélé à l'être humain l'inutilité, l'impuissance de ses œuvres, l'inutilité de sa religion en ce qui concerne le salut, cet homme est incapable de voir le royaume de Dieu. Ensuite, dans le verset 5, Jésus nous annonce comment Dieu opère cette nouvelle naissance. Et il nous dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Nous savons tous que l'interprétation de ce passage a donné lieu à un grand nombre de controverses. Certaines personnes ont cru voir dans ce texte que naître d'eau parlait du baptême. D'autres prétendent d'autres choses. Bien que je respecte les opinions sincères des hommes et des femmes, je crois que ce n'est pas du tout ce que Jésus est en train de nous dire. Parce que, avec l'aide d'autres passages, je peux montrer que Jésus ici annonce que la nouvelle naissance est produite par l'eau et par l'esprit. Et l'eau, dans le Nouveau Testament, est le symbole de la parole de Dieu. Pierre nous dit clairement, vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence corruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et à plusieurs reprises, l'eau est utilisée pour symboliser la parole de Dieu. L'apôtre Paul aux Éphésiens va dire que chacun de vous aime sa femme. Il parle au mari. Que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de sa parole. Dans son épître à Tite, l'apôtre Paul souligne une autre vérité. Il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa grande miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Et lorsque la Bible mentionne l'eau en rapport avec la nouvelle naissance, il est pour moi toujours question de la parole de Dieu. L'enseignement de Jésus est donc le suivant. La nouvelle naissance est produite par le Saint-Esprit qui prend la parole de Dieu, qui l'applique au cœur du pécheur pour le convaincre de péché et lui montrer qu'il ne peut être sauvé que par la foi. La foi en Jésus-Christ. Voilà pour moi la signification de naître d'eau et d'esprit. Jésus a ensuite ajouté une parole pour nous expliquer pourquoi. Et il est nécessaire de naître de nouveau. Pourquoi ? Jésus répond : ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Par notre première naissance, nous avons tous, autant que nous sommes, hérité du péché d'Adam. Une chair corrompue, condamnée. Même lorsque ce corps est habité de moralité, même quand ce corps est revêtu de religiosité, la nature adamique, qui est notre ancienne nature, est tellement mauvaise que Dieu lui-même n'a jamais essayé de l'amender, ni même de l'améliorer. Au lieu de cela, il laisse la vieille nature de côté et donne aux pécheurs qui croient une nouvelle nature par le moyen de la nouvelle naissance. C'est cela la vie éternelle. Il nous reste, pour conclure, à poser cette simple question. Question que m'a posée ce couple cette semaine. Comment puis-je obtenir cette nouvelle vie ? Le résultat de cette nouvelle nature, c'est la vie éternelle. Vous avez bien entendu, une vie éternelle, c'est-à-dire une vie qui n'aura pas de fin, parce qu'une vie qui a une fin, pour moi, c'est une vie temporelle. Or, Jésus a dit : je vous donne la vie éternelle. Une vie qui dure toujours. Une existence qui n'aura jamais de fin. Il y a ici un trésor dans ce texte que seul, malheureusement, ceux qui lisent un peu le grec peuvent découvrir. Car la vie éternelle ici fait allusion non pas à la durée, mais à la qualité. À la qualité de vie. Une vie extraordinaire. Une vie qui vaut la peine d'être vécue. C'est un cadeau de Dieu. C'est la vie même de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Nicodème va demander comment cela peut-il se faire ? C'est-à-dire, comment puis-je obtenir cette nouvelle naissance ? Et Jésus va répondre. Je vous invite à écouter sa réponse. Moïse, un jour, éleva le serpent d'airain dans le désert. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui et qu'il ait la vie éternelle. Car vois-tu, mon ami, Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. La plupart des religions croient en une vie après la mort, mais seule la parole de Dieu, la Bible, parle de la vie éternelle des croyants. Non seulement dans le sens d'une existence sans fin, mais aussi dans le sens d'une béatitude éternelle. C'est la différence entre la religion et le salut que veut offrir Jésus-Christ ce matin. La religion va sans cesse te laisser croire, va sans cesse te laisser espérer, peut-être, si tu fais tout dans les règles, qu'un jour, alors que le Christ va te donner cette espérance. cette vraie espérance en lui. Jésus a dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Si Jésus avait dit : « Je suis un chemin parmi 20 autres. Si tu as un problème, tu prends les 19 chemins. Et puis si tu ne trouves pas, bah tu viens vers moi. » Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et j'aimerais te poser une question ce matin. J'aimerais te poser une question. Es-tu religieux ou es-tu sauvé? Si tu n'as qu'une religion, si tu n'es jamais venu à Dieu par le chemin du sang de Jésus-Christ, laisse-moi te dire avec tout mon amour que tu es encore dans tes péchés, que tu es encore sous la condamnation. Et Dieu t'appelle ce matin à répondre à sa question. Tu n'as pas le droit de quitter ce lieu de culte ce matin sans répondre à cette question. Peut-être que tu te dis : « Mais je n'ai jamais rien fait de mal. Je n'ai jamais tué personne. Je prie tous les jours. Je vais à l'église tous les dimanches. Je suis protestant. » Cela ne te sera d'aucune utilité quand tu te présenteras devant Dieu. Car Dieu te posera la seule et unique question : « Qu'as-tu fait de Jésus-Christ ? » Et il est là le danger de venir au culte. C'est qu'avant, il y a une heure, tu ne pouvais pas dire : « Je ne savais pas. » Maintenant, tu sais. Et tu as un problème. Tout ce que tu as besoin de faire, la seule chose que tu as besoin de faire, c'est d'admettre que tu es perdu, que tu as besoin d'un sauveur, que Jésus veut te sauver. Le chemin de l'homme, c'est la religion, c'est les œuvres. Le chemin de Dieu, c'est la grâce, c'est la foi. Alors j'aimerais que tu puisses répondre ce matin. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta grâce. Nous voulons te remercier pour ce don merveilleux que tu as fait à la croix. Merci parce que tu as donné ta vie. Merci parce que si nous sommes sauvés, c'est grâce à toi. Tout est grâce en toi. Merci Seigneur d'être venu nous chercher. Et j'aimerais prier maintenant, Père, pour cette personne parmi nous, peut-être, qui ne te connaît pas. Je te demande que par ton esprit, tu puisses lui parler maintenant. Parle, Seigneur. Nous croyons que tu es vivant. Et nous croyons encore ce matin que tu veux pardonner nos péchés. Alors Seigneur, par ton esprit, je te prie de toucher les cœurs. Seigneur, ta grâce et ton pardon nous sont offerts. Et nous voulons vraiment te remercier de tout notre cœur. Merci pour cette journée. Merci parce que nos cœurs se réjouissent de savoir que nous sommes pardonnés en toi. Béni sois-tu Seigneur. Amen.